Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Vous vous demandez à quoi ressemble la vie d'un critique de cinéma ? Découvrez l'horrible vérité dans chaque épisode de la Réu d'écran large, avec les discussions, les débats et les engueulades de l'équipe.
Bon, au revoir Réu.
Bienvenue à tous à cette nouvelle réu. Il fait toujours aussi chaud et on approche de la fin de l'été, ce qui dit aussi fin des blockbusters de l'été. Et du coup, ça veut dire aussi que Écran Large va perdre beaucoup de ses clics, mais va aussi regagner de sa santé mentale parce qu'on n'a plus à parler de The Flash ou de Fast and Furious 10, Dieu merci. Mais du coup, je pense que ça serait pas mal que justement on décortique un peu tout ça ou qu'on fasse du moins un bilan. Alors même si vous allez me dire que justement à Écran Large, on passe déjà beaucoup de temps à décortiquer le box-office dans nos articles pour mieux comprendre justement les enjeux de l'industrie. Mais j'ai vraiment la sensation que 2023, ça a été une année assez particulière. Et du coup, si j'ai fait appel à vous aujourd'hui, Geoffrey et Déborah, ça serait justement pour qu'on dégage ensemble des axes autour de cette problématique, autant dans le détail des films que sur quelque chose d'un peu plus transversal. Parce que du coup, en 2023, d'un côté, on peut résumer ça à quelques succès plus ou moins improbables, comme celui totalement inespéré du duo Barbie et Oppenheimer. Mais il y a aussi eu une énorme quantité de bides, notamment du côté des franchises très installées et notamment des films de super-héros, ce qui peut paraître assez bizarre après le retour en force des salles post-Covid. Et justement, c'est un peu un truc sur lequel j'avais déjà envie de revenir parce que finalement, il y a eu quand même beaucoup de bides en 2023 et il y a forcément de certains de ces bides-là qui a pu nous attrister et qu'on a pu traiter d'ailleurs dans le détail. J'avais envie de commencer par toi, Geoffrey. Est-ce qu'il y a un bide cette année qui t'a vraiment attristé ?
Oui, tu veux commencer parce que tu sais ce que je vais dire. Je vais dire Donjons et Dragons parce que c'était une bonne surprise. Je m'attendais à un truc tellement bof et en fait je trouve que c'est un peu ce que devrait être le blockbuster et ce que n'ont pas été les autres blockbusters. Donc c'est vraiment le divertissement bien fichu, malin et le bide un peu triste parce que ça va juste conforter d'autres franchises dans leur médiocrité.
Et en même temps, quand le film a été annoncé, tout le monde se disait mais comment ils vont essayer de ressortir Donjons et Dragons de...
C'est Mathieu qui l'avait vu en premier, c'est toi, vous y êtes.
Moi, je l'avais vu en premier et en plus, moi, j'avais trouvé ça vraiment pas terrible, parce que le côté un peu Mathieu, rigolo de Deadpool m'avait un peu saoulé. Et Mathieu, lui, à côté avec toi, avait été beaucoup plus enthousiaste et surtout la critique qui avait vu le film très tôt aux États-Unis avait trouvé le film vachement bien. Et c'est vrai que d'ailleurs, le film a eu de très bons retours durant toute son.
Comme quoi, la presse ne sert à rien, parce que vraiment, même là, tu vois. Je sais que quand Mathieu est revenu en disant « Franchement, c'est cool », je me suis inscrit à la projection en me disant « Vas-y, il bluffe ». Et en fait, non, c'était cool.
Je vous avoue que là-dessus, je ne vous ai pas trop compris. Mais en vrai, je ne trouve pas le film totalement désagréable, mais c'est vrai que son bide était peut-être plus prévisible. Mais c'est vrai que d'un côté,
c'est sûr que c'est un peu kamikaze vu le budget, mais vraiment, j'ai la scène dans le cimetière et la scène du dragon obèse, moi, ça me va.
Et toi, Déborah ?
Pour le coup, j'ai bien envie de rejoindre Geoffrey quand même, parce que moi aussi, j'ai rattrapé Donjons et Dragons un peu sur le tard et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce film. Voilà,
il n'y a que Antoine qui est chiant. Hein.
Mais sinon, le démarrage d'Élémentaire m'a un peu brisé le cœur. Parce que je m'attendais vraiment à ne pas aimer ce film en me basant juste sur le pitch, donc quelque chose d'assez éculé quand même, voilà, sur ce monde métaphorique avec les éléments qui sont littéralement opposés. Je m'attendais vraiment à un truc très générique, très flemmard sur la recette, et au final non, c'était une très très belle surprise. J'ai retrouvé toute l'émotion que je trouvais qui se perdait un petit peu chez Disney. Au niveau de la technique aussi, c'est très flamboyant, très beau, et Bah voilà, démarrage, tout le monde a l'air de s'en battre le coquillard, non, de s'en tamponner le coquillard de ce film.
Réinventons des expressions, c'est bien.
Et voilà, j'avais trouvé ça sur le coup vraiment injuste pour le film, alors qu'il essayait vraiment plein de nouvelles choses et tout ça.
Et toi Antoine ?
Bah moi pour le coup, ce qui est assez imprévisible et ça m'a un peu déçu pour ce pauvre Tom Cruise, c'est Mission Impossible parce que
pauvre Tom Cruise
quand même. Non mais parce que ça prouve un truc, tu vois, et on y reviendra peut-être un peu après, mais c'est surtout qu'après le succès de Top Gun, je pense qu'il s'est dit que c'est bon, il était intouchable, rien ne pouvait mal se passer, et puis il revenait avec sa franchise qui est en pente ascendante depuis des années, depuis le 4, et là en fait le pauvre il se retrouve avec un bide sur les bras, alors que en fait, alors déjà je sais que je suis un peu tout seul à aimer Mission Impossible 7 dans la rédaction, mais mine de rien tu peux pas lui enlever, tu vois, ce côté, même si c'est un peu bullshit dans la promo, l'artisanat du truc, l'envie de faire plaisir aux spectateurs, l'envie quand même de faire un blockbuster bien foutu aussi, et à grand spectacle, un truc qui mérite d'être vu sur grand écran. Et là le fait que les gens s'y désintéressent, ou du moins s'y intéressent moins qu'avant, et que, alors que le budget a explosé, mais ça on y reviendra aussi, ça m'a quand même un peu attristé, surtout que je trouve le film vraiment très intéressant pour le coup, notamment d'un point de vue théorique.
C'est
pauvre
peut-être
Tom.
Ça le problème, si le film est intéressant mais théorique, c'est peut-être qu'il est chiant en réalité.
Non, mais non, franchement, non mais tu vois, mais non, mais je filais bien le film. Moi, je
il est
le
sympathique,
mais non,
tu
il est
un
plus
bon
que, il est plus que sympathique, franchement, tu vois, j'ai pas eu le temps encore de me le remater, mais
je
j'ai très envie de
le voir. Je suis dessus, mais je l'ai pas vu.
Moi, pour le coup, je dirais pas que je suis content du beat de Mission Impossible parce que j'aime bien la saga, mais je trouve que c'est plutôt un bonne baffe dans la gueule, parce que ce film, je trouve vraiment inférieur au précédent en termes de qualité d'écriture et de mise en scène. Donc, je trouve que c'est pas mal que son ego à McQuarrie et Tom Cruise se prennent ça pour rectifier le tir sur la suite. Donc, je dirais pas que je suis content du côté beat dont on est satisfait, mais je trouve ça plutôt justifié, donc ça me bat. Est-ce que vous, il y a des bides que vous trouvez vraiment totalement justifiés? Sortez votre haine, allez-y.
Alors, pour ne pas prendre la facilité et parler de films de super-héros, parce que je sais que vous pouvez très bien en parler, moi j'avais envie de parler du bide de Ruby, l'ado Kraken. Voilà, est-ce que vous découvrez l'existence de ce film?
Non, parce qu'on travaille avec toi, donc non.
Parce que personnellement, j'ai découvert l'existence de ce film pendant que j'étais un peu en train de vérifier l'agenda des prochaines sorties, pour voir un petit peu ce qu'on pouvait faire et tout ça, et je suis tombée sur ce film, j'étais en mode, tiens, c'est quoi? Ah, c'est le prochain DreamWorks, ok, d'accord. Sorti un peu dans l'indifférence, et puis bon, bah, je sors de la projo presse, et franchement, le film m'avait presque énervé de retourner à une formule aussi générique, à quelque chose d'aussi superficiel, alors que la promesse, franchement, était plutôt cool. Voilà, découvrir un monde de Kraken et tout ça, en plus du peu qu'on voyait dans la bande-annonce et les images. C'était quand même des designs qui étaient assez rigolos, on va dire ça comme ça. Il y avait moyen de s'amuser. Et
j'aurais
au final...
dit moche, mais pourquoi pas rigolo.
Alors, ouais, les dessins sont moches, mais par contre, les Kraken, vraiment, dans leur design, tu sais, il y avait un peu ce truc de pas juste ressembler à des poulpes ou des pieuvres ou des dérivés anthropomorphes d'animaux qu'on connaît, mais il y avait quelque chose... un truc un petit peu sympa, mais bon, non, au final, le film, je crois que j'ai déjà oublié la quasi-totalité du film, à part le milieu et la fin. Donc c'est pour ça, je me disais... Pareil, je suis pas contente que le film se soit pris un mur, je suis pas aussi cynique. Mais en tout cas, ça remet un peu les pendules à l'heure, en mode, bah oui, on va pas se jeter sur n'importe quel truc qui est estampillé DreamWorks, parce que c'est DreamWorks, et ça rappelle que oui, non, derrière, il faut quand même qu'il y ait un minimum de qualité, qu'il y ait de la promotion, enfin bref, que vous croyez en vos films pour qu'ils réussissent. Ce qui n'était pas le cas là.
Ça a visiblement été un peu la règle, y compris sur les très grosses franchises. Et je pense notamment à DC qui s'est quand même pris là aussi. Alors là, c'est même
allez,
plus
on tire sur l'ambulance.
Allez, let's go. Moi, j'avoue que c'est Shazam 2, quoi. Enfin, de toute façon, bon, le truc était mort avant même de naître. Mais tu vois le film à sa sortie dans une salle vide. C'est...
Tu détestes plus Shazam 2 que The Flash?
Ah ouais, parce qu'en fait, Flash, tu vois, il y a un truc où quand même tu vois le film et t'hallucines un peu devant sa nullité, mais qui en devient un peu... Enfin, c'est même plus l'accident industriel, c'est ça, au-delà de ça, vraiment, The Flash, c'est la qualité des effets visuels, le choix des scènes, tu vois, le bébé dans le micro-ondes, ce genre de truc, c'est vraiment, il y a rien qui va dans The Flash, mais c'est ça qui est assez fascinant. Tu vois, Shazam 2, il y a tellement rien que tu finis le truc en te disant, enfin, tu l'as déjà oublié en sortant de la salle, et tout est fait dans le foutage de gueule permanent, y compris dans les scènes post-génériques qui mènent sur rien, alors que c'était censé limite te prendre en otage jusqu'au générique de fin. Là où The Flash, c'est au moins matière un peu hallucinée devant le truc, en fait.
On en est donc là.
Mais du coup, je trouve ça intéressant, au travers de tous ces films-là qu'on évoque, et certains qui étaient quand même attendus, alors peut-être pas Shazam, mais The Flash et Élémentaire étaient quand même attendus comme des gros poids lourds de cet été, ça amène ce truc-là où, depuis 2013, il y a cette fameuse conférence qu'ont donné Steven Spielberg et George Lucas en Californie, où ils avaient dit à ce moment-là que pour eux, comme eux-mêmes avaient des fois des difficultés, enfin surtout Spielberg, à monter certains films, notamment des Lincoln ou des films plus intimistes de Spielberg, donc il peut quand même faire parce qu'il a la thune pour. Il disait que le vrai problème, c'est que les studios ne voulaient plus investir dans ces films-là, donc dans plus de films avec des budgets moindres, quitte à risquer des flops, mais d'investir toujours plus dans moins de projets, mais des projets tellement énormes que s'ils se cassent la gueule, ça allait devenir vraiment catastrophique et que ça allait obliger l'industrie, passer 4-5 flops comme ça, à devoir se réinventer. Et depuis en fait 2013, tous les ans ou presque, il suffit qu'il y ait un gros bide pour que tout le monde dise « ça y est, la prédiction de Spielberg et de Lucas arrive et ils avaient raison ». Et je pense que d'ailleurs on fait souvent partie de ceux qui aiment un peu remettre les pendules à l'heure là-dessus en disant « attention, il y a quand même des gros succès, calmons-nous, c'est pas la peine de trop s'exciter ». Mais c'est vrai que sur peut-être là 2023, c'est peut-être l'année où j'ai le plus vu d'ailleurs de papier revenir là-dessus en disant « ça y est, en fait, peut-être que Spielberg et Lucas avaient raison
bah ». Surtout Ant-Man 3, je trouve que vraiment la déculottée d'Ant-Man 3 qui est censé rouvrir une phase 5 avec le nouvel ennemi, vraiment tu te dis « il y avait tout pour que ça marche un minimum, que ça fasse comme la moyenne, genre 700-800 millions, et le truc il a fait quoi, 300-400 enfin c'est… Ouais. Minable. C'est à l'échelle de Marvel, c'est juste un énorme bide. Donc là, c'est vrai que je pense que nous, on s'est regardé en se disant est-ce qu'on assiste à quelque chose là?
Et voilà. Et comme en plus d'autres ont suivi dans la foulée, c'est en fait, c'est forcément un peu le sujet de cette réunion, c'est de se demander finalement, en étudiant un peu au cas par cas les films, autant dans les gros bides que les succès de cette année et notamment de cet été de blockbusters américains, est-ce que vraiment on peut dire que la prédiction de Spielberg et de Lucas est justifiée et est-ce que vraiment elle est en train de voir le jour là maintenant et qu'elle mérite que tout le monde s'inquiète. Et en même temps, je pense que c'est toujours bon de rappeler, enfin, quel que soit le type d'article qu'on voudrait faire là-dessus, je pense que c'est toujours bon de rappeler qu'un flop, justement, on en parlait là, mais c'est même quand on estime que c'est mérité, ça nous plaît pas de voir juste un film bidé, et surtout, un box-office ne reflète jamais totalement la qualité d'un film, parce que sinon ça se saurait, je pense.
Oui. Non, on a une liste longue comme 4 bras de films qui ont pas marché dans l'histoire du cinéma et qui sont aujourd'hui considérés comme des grands classiques, donc c'est sûr que ça n'a aucun rapport.
Et puis il y a d'autres films comme des Venom et compagnie où à chaque fois ça fait 800 millions. Alors que toute la presse déchire le truc et que globalement on est beaucoup à trouver ça pourri, mais le public est là et on redemande d'ailleurs, puisque même les suites cartonnent plus ou moins. Donc,
et à chaque fois, l'horloge de l'apocalypse avance un petit peu plus.
C'est ça. Du coup, j'avais bien envie qu'on commence quand même par les très très gros flops. Enfin, d'abord revenir peut-être sur ces cas assez particuliers, et je pense qu'il y en a deux en particulier sur lesquels il faut revenir parce qu'ils sont assez spéciaux dans nos cœurs. Et le premier, c'est bien sûr The Flash.
Oui, non mais incontournable. Quand tu regardes les chiffres, le truc a coûté officiellement dans les 200 millions. Alors quand on dit officiellement plus de 200 millions, c'est qu'on ne sait pas parce que les reshoots et tout le bordel qu'il y a eu, en fait, il y a un truc qui reste un peu secret sur le coût réel. Et au final, au box-office, au total, c'est 268 millions, donc même pas 270. Et côté domestique, c'est 108. Donc autant vous dire qu'il n'y a aucun moyen de parler de ce film sans parler d'un flop, quoi. Il n'y a rien qui peut le sauver. C'est juste, quand tu compares à tous les films de DC, à tous les films Marvel, c'est évidemment désastreux. Et quand tu regardes juste dans l'absolu un film hors franchise, en fait, c'est juste un gigabide.
Bah, surtout que même, j'avais cru lire quand même que l'estimation de budget était même plus proche des 300 millions.
Tu sais jamais vraiment. Mais
tu
oui.
sais jamais vraiment, mais dans tous les cas, ça veut dire que dans ce cas-là, c'est très compliqué à rembourser parce que c'est toujours
c'est possible, quoi. Mais c'est sûr que là, on peut dire qu'entre le budget officiel, le budget marketing qui doit clairement être énorme parce qu'ils ont été Comic-Con, ils ont fait Super Bowl où c'est genre pour 7 secondes, c'est 7 millions, enfin tu vois, c'est des chiffres ahurissants. Et qu'en plus, ils ont officiellement dit qu'il y a eu des reshoots, que la fin a été retournée deux fois pour avoir trois versions, qu'il y a eu une post-production très compliquée.
Ça se voit.
C'est sûr que là, on est obligé d'estimer une fourchette très haute. Donc au minimum, le film a coûté officiellement 200 millions. Au minimum, c'est 100-150 millions de marketing. Donc c'est sûr qu'on approche d'un truc qui a coûté probablement 350 millions et qui a fait... combien au box-office total? 268. Donc, clairement, ils ont perdu probablement 150 ou 200 millions. Et d'ailleurs, quand tu compares, parce qu'à chaque fois qu'on dit combien ça a perdu pour le studio, il n'y a pas moyen de savoir, sauf grâce à Disney, qui a commenté les bids de Lone Ranger et John Carter. Ils ont officiellement commenté à l'époque. Et quand tu regardes le box-office et le budget de ce film-là, c'est très proche de Flash. Ce qui veut dire que quand tu regardes ce que Disney a officiellement perdu, c'est-à-dire peut-être la fourchette basse, sur Lone Ranger et John Carter, ils ont forcément perdu entre 160 et 200 millions avec The Flash.
En sachant que c'est toujours même ça qui est compliqué, c'est que quand on parle d'un box-office, le box-office qui est évoqué, c'est le coût total d'un prix de ticket de cinéma, et ça c'est toujours important de le rappeler, alors qu'au final ça revient pas dans la poche d'un studio totalement. A priori, donc c'est pour ça d'ailleurs que la première semaine est aussi importante aux États-Unis, c'est que L'idée aux États-Unis, c'est que plus un exploitant garde un film en salle, plus lui se fait une part importante parce qu'il choisit de garder un film qui a priori attire moins de spectateurs sur la durée. Donc a priori, c'est 60% à peu près d'un ticket de cinéma qui revient au distributeur aux États-Unis sur la première semaine, et ça descend de 5% de semaine en semaine. À l'international, c'est environ 40% en moyenne, et le cas le plus intéressant, c'est en Chine, qui est pourtant un marché qui est extrêmement demandé par les blockbusters américains, qui sont très peu à pouvoir s'implémenter là-bas et qui de plus en plus n'arrivent pas à autant attirer que dans les années 2010 par rapport aux grosses productions locales. Mais là-bas, c'est 22-23% qui reviennent dans les poches des distributeurs. Donc c'est aussi pour ça que, a priori, quand tu estimes un budget donc autour de 350 millions, si le film a fait 268 millions, ça veut dire que de toute façon, il aurait dû au moins doubler son budget total en termes de box-office global pour à peu près, a priori, au moins se renflouer. C'est même pas donc tirer une marge énorme
atteindre le seuil de rentabilité. C'est pour ça que un jour, il va falloir qu'on fasse une vidéo mode d'emploi box-office pour raconter tout ça, parce qu'à chaque fois qu'on parle de box-office, je me souviens sur les articles de Donjons Dragon, les gens ont tellement été relous sur Twitter à dire « mais je comprends pas, ils ont fait 60 millions de bénéfices ». Non mais pas du tout, lisez l'article déjà, dit calmement et pas du tout de manière passive-agressive. Et surtout, c'est pas du tout comme ça que le box-office fonctionne. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment, nous, notre job, je pense, c'est vraiment régulièrement de rappeler ça pour que les gens comprennent que les chiffres, c'est pas un calcul, une soustraction évidente, parce qu'il y a plein de thunes qui est perdue, heureusement pour les exploitants. Donc effectivement, plus ça coûte cher, plus tu dois atteindre le milliard, et parfois c'est des effets d'annonce, parce que quand tu te fais 600 millions en Chine comme un Avengers, bah en fait tu gagnes pas du tout 600, tu gagnes pas du tout 400, tu gagnes vraiment peu finalement.
Puis même au niveau des dépenses, c'est très compliqué d'avoir un chiffre qui soit vraiment représentatif, surtout quand on prend le cas de The Flash. Le truc était en production depuis 2014, ça, il y a combien de scénaristes qui sont passés sur ce truc?
Bah il y avait beaucoup, l'article de je ne sais plus quel média qui avait dit un blockbuster de super-héros dont on ne donnera pas le nom, environ quoi 40 scénaristes sont passés dessus, on vous laisse deviner lequel.
Donc tu dis que pour ça il y a déjà eu des dépenses, enfin ça on le voit souvent, des films qui sont pas encore en production mais pour lesquels le studio va cracher des thunes pour le pré-développement, pour les scénaristes et tout ça. Donc ça c'est pas forcément des sommes qui sont données dans le total, donc même là c'est compliqué de décortiquer un petit peu au niveau des salaires, au niveau de ce qui va pour la production, la post-production et tout ça.
Donc même les réalisateurs ont changé, hein. Flash ça n'a cessé d'être un turnover pas possible, et alors que en fait d'ici on était au stade où de toute façon ils disaient bon, quel que soit l'état du Snyderverse sur le futur, The Flash était censé, puisqu'il s'inspirait du comics Flashpoint, totalement réinventer le truc. Et pendant très longtemps, les mecs ont dit c'est bon, c'est la carte gagnante, on sait où on va avec ce truc-là. Dans tous les cas, ça aide à rebooter l'univers. Et puis en plus, si on cale Michael Keaton, il y a Batman, donc il y a un truc identifié. C'est bon, quoi, c'est dans la poche.
Mais en théorie, ça aurait dû l'être, c'est ça qui est ouf. C'est ça, quand tu vois le film, c'est vraiment, tu dis, mais c'était l'occasion rêvée à ce tournant de DC Warner de rebooter de manière intéressante, de stimuler les gens avec un truc qui, franchement, moi, sur le papier, je trouve super excitant. Et quand tu vois le film, tu te dis, malgré le bordel autour et malgré toute la compassion que je peux avoir pour ces millionnaires, c'est quand même foiré, parce qu'ils arrivent à la fin de pas refermer des portes, en ouvrir d'autres, au lieu de trouver de donner un sentiment de vraiment conclusion d'histoire. Mais vous continuez à rajouter des blagues et à continuer cette histoire qui est fini, s'il vous plaît, stoppez ce massacre. Ouais. Quoi, c'est vraiment un crash au ralenti, ce truc, jusqu'à la dernière putain de seconde du film. Quoi, c'est vraiment terrible.
Mais en même temps, moi, c'est vraiment peut-être, enfin, tu vois, par rapport à Shazam 2, je te disais qu'il est surtout un encéphalogramme plat. Là, t'as la sensation quand même du truc qui t'insulte, qui te crache à la gueule en permanence. C'est-à-dire, non seulement tu sais que ça a coûté une blinde monstrueuse, mais tu vois la gueule du film dès ses premières minutes. Parce que tout le monde a parlé maintenant, tu vois, des séquences visuelles PS3, là, dans l'espèce de...
Le traumatisme collectif.
Voilà, tu vois, le truc, là, dans l'espèce de truc.
La collision des boules,
voilà,
appelons-la
voilà,
comme ça.
La collision des boules, là. Voilà.
La force véloce, ça me revient.
Mais dès le début, tu vois, quand lui rush, là, pour retrouver Batman à Gotham, mais déjà là, tu fais, ok, là, ça démarre très, très bien. Tu te dis, on est parti pour... un grand moment de cinéma. Mais du coup, c'est quand même intéressant de revenir sur le crash même général de DC cette année, puisque du coup, il y a eu aussi, donc plus tôt dans l'année, Shazam 2, avant l'été, qui lui aussi a été quand même... en même temps, ils ont pu faire l'effort. Ils savaient, avant même de le sortir, que c'était le truc était déjà mort et enterré. Ils n'ont pas essayé de faire d'efforts au niveau de la com, et puis le truc est sorti dans l'indifférence générale.
Mais j'avoue que j'étais un peu étonné, parce que le premier a marchoté quand même de manière assez satisfaisante. Je ne pensais pas que le deuxième... Et en fait, il était rejeté d'une manière tellement sensationnelle.
C'était aussi avant qu'il y ait la fameuse guéguerre qui fasse que Dwayne Johnson, lui, dise « Mais non, il n'y aura pas Black Adam dans Shazam 2 », alors que le projet était déjà lancé. Et donc ça,
Black Adam,
ça, a pas aidé, ça n'a pas aidé non plus, en fait.
Oui, c'est sûr que si dans Shazam 2, on avait une confrontation soit avec Superman, s'allier avec Superman, comme on l'avait vu dans la scène post-générique, là, avec le plan téton là, du torse de Superman.
Le plan téton.
C'était vraiment pour moi un plan téton. Donc c'était soit ça, soit Black Adam, parce que bon, mythologie des comics, tout ça, c'était l'affrontement, et normalement c'était logiquement, après que chacun ait eu son film d'introduction, la rencontre, ça s'est pas passé, parce que gros égo de Dwayne Johnson qui préfère affronter Superman, mais de toute façon, Superman d'Henry Cavill n'existe plus, et le Black Adam de
Wolverine. Je pense qu'au-delà des égos, il y a aussi toujours la projection de se dire, on pourrait le faire maintenant ou dans un an, faisons-le dans 5 films, faisons-le dans 15 films, faisons-le dans 45 films. Bah, à un moment, non, les gens ont dit, stop, allez vous faire foutre.
Oui, ce qui est d'ailleurs peut-être la leçon principale à retenir de The Flash et de l'autre film dont on va parler juste après, c'est que c'est des paquebots tellement vénères qu'en fait tu peux plus bouger le Titanic une fois qu'il est en marche, quoi. Et donc une fois qu'il est lancé, que t'as déjà mis 200 patates dedans, bah tu continues même si tu sais d'avance, ouais, que c'est mort, et en fait t'as pas le temps de manœuvrer pour espérer rattraper le truc quand tu sens qu'en fait c'est déjà trop tard. Et que bah tant pis, t'y vas quand même, quoi.
Parce que The Flash, tu peux vraiment, on le compare à des flops comme Dark Phoenix, Green Lantern et John Carter, comme je disais, au box-office domestique aux États-Unis, donc celui qui rapporte le plus au studio. Green Lantern a fait plus que The Flash.
Ah oui,
donc pour vous dire le cosmico crash du truc, quoi. Vraiment, il y a absolument rien qui peut le sauver.
Après, tu me dis, les films sont aussi moches, donc finalement c'est bien. Hein,
c'est tout aussi dégueulasse en CGI. J'étais en train de me dire lequel des deux je voudrais revoir si j'avais pas le choix, et je crois que j'ai même pas envie de répondre, en fait.
Parce que pour revenir sur Shazam 2 quand même, parce que tu parles de comparaison pas flatteuse, il a fait moins que Morbius. Si on prend en compte le box-office mondial, il a fait moins que Morbius, parce que pour poser les trucs quand même, Shazam 2 pouvait se permettre quand même de rapporter moins parce qu'il avait un budget moindre par rapport aux autres productions du DCU. Il est à 125 millions à peu près de budget hors marketing, alors que la moyenne des derniers DC, c'était plutôt aux alentours des 200 millions, 185-200 millions. Donc il pouvait se permettre, mais bon, au final non, parce qu'il a rapporté 133 millions au box-office mondial, dont 57 millions aux États-Unis. Donc voilà.
Bah, c'est incroyable, quoi, franchement.
Et c'est un des cas les plus intéressants, parce que c'est aussi celui où le flop a été tellement vénère qu'ils l'ont immédiatement sorti en VOD. Mais
trois,
je crois que c'est
semaines,
un record.
Ouais, voilà. Trois semaines après sa sortie en salle aux États-Unis, il est sorti en VOD. Et on avait déjà vu avec Disney qui avait ce truc pendant la pandémie de se dire, bon bah on va réduire les fenêtres d'exploitation en salle pour ensuite basculer plus rapidement sur les plateformes, donc en l'occurrence sur Disney+. Ça avait été le cas par exemple, je crois, pour Shang-Chi, qui lui n'était pas sorti et en salle et sur Disney+, mais qui a été resté un mois en salle avant de passer sur Disney+. Mais là, c'est clairement genre le repli d'urgence et l'aveu d'échec total. Et en même temps, la troisième semaine où Shazam 2 était en salle aux États-Unis, il a rapporté 6 millions de dollars. En troisième semaine.
C'est un score absolument minable. Non, mais
un blockbuster de cette taille. Ouais.
Ça me rappelle Resident Evil, Bienvenue à Raccoon City. Ils avaient fait ça aussi quand le film n'a pas marché. Ils ont sorti le truc, ils ont lâché les 6 premières minutes sur Internet et ils ont foutu le truc en VOD. C'est genre l'aveu de en fait, il n'y a rien d'autre qui peut sauver le film, qui peut limiter la casse, quoi.
Mais bon, du coup, c'est marrant que tu parlais de Disney, puisque Disney est bien évidemment l'autre studio concerné par le méga flop de cet été, qui n'est autre que Indiana Jones 5 et le cadran de la destinée, bien sûr. J'avais
Quel
oublié
titre
ce
merde,
titre incroyable. Donc, dernière incursion de Harrison Ford à plus de 80 balais dans la peau du célèbre aventurier. Et vers la fin, avant sa sortie, ça commençait à sentir le roussi, mais pas à ce niveau-là quand même.
Ouais. Mais c'est marrant parce que là, pour le coup, c'est un film dont la rédaction, on est vachement divisé.
Ouais, moi j'aime beaucoup et j'avoue que je suis assez triste parce que je trouve qu'il y a une mélancolie, il y a un truc que je trouve assez beau dans le film qui moi déjà me plaît beaucoup plus que le 4, même si je déteste pas non plus le 4. Mais surtout j'étais content, tu vois, que sur un film comme ça, Lucasfilm ait quand même eu la décence de pas mettre genre Ron Howard dessus et de mettre...
pas le perdu, allez. Neil Blomkamp.
Robert Rodriguez quand tu veux. De mettre un vrai cinéaste, donc James Mangold, qui en plus, je trouve, fait quand même un boulot qui est... comme héritier de Spielberg, il est très solide. Donc bon, on en a déjà parlé en parlant d'Indiana Jones 5. Mais je trouve qu'il y avait quand même... Je trouve le film assez beau. Et même s'il n'est pas parfait, notamment à cause des contraintes infernales d'avoir un acteur de 80 balais qui doit faire des scènes d'action.
Ne blâme pas que Harrison Ford.
Je blâme pas que Harrison Ford. Je blâme les problèmes de contingence de studio qui imposent l'existence pareille d'un projet. Mais je trouve qu'il y a de très belles idées, y compris la fin, qui, je sais, fait beaucoup de débat. Mais du coup, pour le coup, je trouve le flop un peu triste, même si au final, c'est pas qu'il est justifié, mais Le film a été un peu comme Flash, ça fait des années qu'ils veulent le lancer. Depuis que Disney a racheté Lucasfilm, ils se disent, bah, logique, on a une fenêtre pour faire un dernier. Indiana Jones s'est rattrapé le 4 et se faire de la thune dessus. Mmh. Et c'est logique, la marque parle encore aujourd'hui, donc let's go. Faut le faire avant qu'Harrison Ford crève, en gros. Mais du coup...
Tu seras puni pour avoir dit ça.
Je serai puni pour avoir dit ça. Mais du coup, bah, le pauvre, le film, il sort. Mais à qui il s'adresse, en fait? C'est surtout ça, en fait. À qui est-ce que le public jeune, qui est censé être le public qui va encore majoritairement en salle, surtout post-Covid, a vraiment envie de voir Indiana Jones, alors que la franchise leur parle peut-être pas, parce qu'ils n'ont pas grandi avec.
Donc ce Indiana Jones 5, parlons des chiffres, yes. Il a coûté 300 millions, ce qui est un budget absolument énorme, ouais. Et au box-office mondial, 375. Alors yeah. Franchement, pour mesurer à quel point c'est un désastre, sans même prendre l'inflation, le premier Indiana Jones a fait plus. Il a fait 390 millions. Je vous laisse imaginer avec l'inflation comme ça doit être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Mais là, même pas besoin de sortir la calculatrice de l'inflation. Il a fait moins. Donc c'est juste un désastre absolu. Et là, il n'y a rien qui peut le sauver. C'est comme The Flash, quoi. Si tu retires la part qui va aux exploitants, désastre total. Je trouve ça marrant parce qu'en France aussi, il a fait une énorme catastrophe. Hein. Il a fait 2,7 millions d'entrées, pour parler juste de chez nous. Et c'est le pire score. Le quatrième, c'était plus de 4 millions d'entrées. Le deuxième Indiana Jones, plus de 5 millions. Et le Indiana Jones 3 et le tout premier, plus de 6 millions.
Ah ouais.
Tu vois quand même la chute. Hein. Donc clairement, il n'y a plus de gens qui sont intéressés par ça. Moi, je trouve, par ce Indiana Jones en 2023, sous cette forme, avec autant de thunes. Et en même temps, on a beaucoup critiqué le budget du film. Mais si tu regardes pourquoi ils ont mis autant d'argent, le Indiana Jones 4 en 2008, il a fait 790 millions au box-office. C'était plus que Quantum of Solace et plus que Iron Man 1. Donc imagine, t'es dans les bottes de Disney, tu te dis, en fait, ce truc a un potentiel à franchise absolument énorme. Donc c'est logique qu'ils foutent autant de thunes dedans. Ils ont mis autant de thunes là-dedans que dans n'importe quel autre blockbuster, parce qu'en fait, bah, il y avait clairement le potentiel pour que ce truc fasse 800, 900, 1 milliard.
Ouais, enfin quand même
en théorie.
300, c'est pas rien. Tu vois, on parlait de la barre des 200, alors même si a priori Flash est allé largement au-dessus, mais pour aussi des problèmes de prod et de reshoot et de compagnie. Mais là, Indiana Jones, quand ils ont annoncé que le budget était de 300 millions,
ouais, c'est
même
c'est
avec l'inflation
de...
et la
pourquoi,
crise actuelle, ouais. C'est improbable que ça soit aussi énorme. Enfin, c'est suicidaire d'avoir mis autant de thunes dans un film.
Je pense que dans tous les budgets et l'inflation dont on parle, il y a la question Covid qui est un peu obscure, parce que tout un tas de gens disent, bah, en fait, ces films-là, la production a été retardée, il y a eu beaucoup de dépenses qui n'étaient pas prévues, mais en même temps, quand tu as les détails de ça, genre sur Jurassic World 2, c'est pas énorme, ça se chiffre en quelques dizaines de millions. Donc tu comprends pas pourquoi il y a genre 50 ou 100 millions en plus. Le salaire de Harrison Ford, c'est 20 millions, logique, et tant mieux pour lui. James Mangold et Spielberg en producteur, apparemment, c'est beaucoup. Mais encore une fois, comme dans plein d'autres films, donc ça va. Est-ce que le de-aging peut expliquer que ça coûte plusieurs dizaines de millions en plus?
Bah, et ça, tu vois, c'est le truc, sur la question sur laquelle que je me pose, c'est que donc la scène d'intro où tu as le Harrison Ford rajeuni en numérique, donc le fameux de-aging, et la séquence dure quand même quasi 20 minutes, c'est quand même méga ambitieux, c'est le gros morceau de bravoure du film. C'est sûr que ça, enfin, je pense que ça joue beaucoup dans l'explosion du budget du film. Le truc où je m'interroge là-dessus, c'est que Lucasfilm fait partie de ceux qui expérimentent le plus autour de cette technologie-là, et notamment du deepfake depuis notamment The Mandalorian. Et donc, ils tiennent vraiment la dragée haute sur la question de cette technologie-là et de son évolution. Donc, est-ce que tu vois, plutôt que de s'être dit d'ailleurs faire comme Indiana Jones 3, de mettre un jeune acteur pour remplacer Harrison Ford, et ça t'aurait coûté a priori beaucoup moins cher que de faire le choix qu'ils ont pris là, est-ce que tu vois...
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vois ça sur le long terme en te disant t'investis des millions dans cette technologie-là, en te disant, en plus pour un résultat qui est honnêtement un petit peu perfectible dans le film, mais de te dire, bon, on essuie les plâtres maintenant et il faut investir cette thune-là maintenant pour que ça nous serve dans 10 ans et que dans 10 ans, on soit les premiers à pouvoir utiliser une version parfaite de cette technologie-là, quitte à investir à perte sur un autre projet.
Reste et dans le que, premier Captain Marvel, Samuel L. Jackson aussi, il est rajeuni, non?
Ouais, bah,
pourtant,
en plus,
ça
n'a
pas
Marvel,
explosé
alors,
le budget de
Marvel,
film.
En plus, travaillait avec, c'était Lola VFX qui est spécialisée sur cette technologie-là depuis Benjamin Button, et qui a beaucoup travaillé là-dessus. Et c'est vrai que sur Captain Marvel, je ne saurais pas trop te dire pourquoi sur Samuel L. Jackson, ça leur a coûté moins cher, alors qu'en plus, je trouve que c'est de loin l'un des de-aging les plus réussis qui existent, parce que même sur Secret Invasion, ils en font pas mal d'usage, et c'est honnêtement assez bluffant sur l'utilisation, je trouve. Mais pour le coup, oui, sur Indiana Jones, je m'explique pas totalement pourquoi ça a autant fait exploser le budget. Et il y a sans doute pas que ça, hein, d'ailleurs. Mais
Oui, ils ont dû faire aussi plein de tournages en décor réel à travers le monde. Enfin, ils ont dû vraiment dépenser sans compter, quoi.
C'est ça.
Parce que 300 millions, ça n'a pas de sens. Alors, le truc assez drôle, c'est que en écrivant l'article Box Office il y a pas longtemps, enfin en relisant, en rajoutant les trucs, je me disais. Le truc qu'on peut comparer à Indiana Jones, c'est Solo Star Wars Story. Tu parlais de Ron Howard qui prit une balle perdue, là.
Ouais. Là, voilà. Parfait. Il
Parce
s'en prend une deuxième.
Solo a coûté quasiment 300 millions à l'époque. Hein.
290-295.
Donc, c'est hors de prix, quand même.
Midofoque.
Et au box-office, il a fait plus qu'Indiana Jones. Il a fait 393, alors qu'Indiana Jones, c'est 375. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que suite à Solo, ils ont annulé tout un tas de plans de films de Star Wars, dont un réalisé normalement par James Mangold sur Boba Fett.
Oui, c'est ça.
Donc, c'est un tout petit monde quand même. Tout
et Obi-Wan qui devait à la base être un film avant de se transformer en série télé.
Donc ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont faire de la marque Indiana Jones puisqu'ils l'ont racheté pour plusieurs milliards avec Lucasfilm. Ok, ça ne marche pas au cinéma, mais ils vont forcément essayer d'en faire un truc sur Disney Plus d'une manière ou d'une autre, non?
Bah, et puis il y a le jeu Bethesda qui est censé arriver, mais qui à la base aurait dû potentiellement essayer d'exister en corrélation avec le film, mais en fait là le jeu est en plein développement et ça sortira pas avant au moins 2 ans. Cela étant dit, le seul truc positif que j'ai lu sur ça, c'est que, enfin sur Indiana Jones en général, c'est que Bob Iger dit que, mine de rien, le regain de la marque, c'est quand même faire sentir dans certains produits dérivés, mais surtout dans le rajout des 4 premiers Indiana Jones sur Disney+, qu'ils avaient gardé dans le coffre-fort pendant un certain temps, qu'ils ont remis en 4K peu de temps avant la sortie du 5, et visiblement ça a pas mal boosté Disney+ sur la période où ils l'ont mis en
cher pour remettre des films sur la homepage quand même.
Alors, bien sûr, je suis d'accord avec ça, mais voilà, ça c'est visiblement le seul truc positif à retenir. Ouais,
ils ont qu'à ressortir des coffrets Blu-ray et DVD de ces films.
Bah, c'est déjà le cas, c'est déjà le cas depuis l'année dernière, notamment sur la 4K qui est de très bonne qualité sur les 4 Indiana Jones. Mais du coup, ça c'est intéressant qu'on reviennent sur ces films-là, parce que tu vois, là, on revient sur des flops qui sont non seulement spectaculaires, mais aussi assez inattendus. Mais pour justement peut-être mettre un peu de nuance là-dedans, c'est qu'on est habitué finalement tous les ans à ce qu'il y ait des beats comme ça, y compris des films parfois qui étaient quand même un peu attendus au tournant, ou sur lesquels on se doutait quand même quand ils allaient arriver que ça allait être compliqué. Et tous les ans, t'as des films un peu, y compris sur des gros gros films, des films un peu mornés comme ça. Et là, cette année, on en a quand même eu plusieurs. Alors, il y en a un, Déborah, t'es déjà un peu revenu dessus, mais c'est du coup Ruby et l'ado Kraken.
Bah oui, déjà, voilà, je découvre. Pourtant, je suis quand même assidûment les prochaines sorties de films d'animation, surtout dans des studios comme DreamWorks. Et donc là, je découvre le film en même temps que je fais l'agenda. Je vois que la sortie, elle est proche d'Élémentaire. Donc du coup, je me dis, ah cool, ça va faire un duel intéressant cet été au niveau de deux gros studios et tout ça. Et en plus, DreamWorks, on avait encore l'image de son retour en force avec Le Chapeauté 2 et juste avant Les Bad Guys, qui avait redonné un petit peu du souffle aussi bien au box-office que dans la direction artistique et tout ça. Enfin, il y avait vraiment un peu cette idée que ça y est, DreamWorks est vraiment en train de reprendre du poil de la bête et ça va se fighter avec Disney et Pixar. Et en fait... Alors, je vous donne les chiffres quand même parce qu'il faut bien se rendre compte. Le film a coûté 70 millions. Hors marketing. Et dans le monde, il en a rapporté 41, dont 15 millions aux États-Unis, ce qui représente à peu près 38% du box-office total. C'est affligeant. J'ai pas besoin de...
Pour un film d'animation grand public,
voilà,
c'est
juste... Et pourtant, comme tu dis, même chez DreamWorks, oui, il y a de grands films, il y a de grandes sagas, il y a les Shrek, il y a les dragons et tout, mais c'est quand même assez habituel qu'il y ait des films comme ça, qui soient des projets beaucoup plus mineurs, qui sortent, qui ont des plus petits budgets et qui se cassent la gueule. C'était le cas du Spirit de 2021.
C'était avec le cheval, ça, non?
Oui.
Oui, alors il y avait le Spirit de 2001 qui est un chef-d'œuvre, on touche pas. Et.
D'accord.
Notre enfance.
Je ravale.
Tu peux pas comprendre, Geoffrey, t'as pas grandi avec.
Et Spirit l'Indomptable, donc qui est sorti en 2021 et qui s'est complètement ramassé. Mais bon, il s'est ramassé avec 30 millions de budget et pas avec 70 000 millions.
Oui, c'est vraiment la suite au rabais qui aurait dû sortir en direct ou tout DVD directement.
Voilà,
en fait.
Et même au final, DreamWorks, tu reviens un peu au début du studio, que ce soit La Route d'Eldorado, Sinbad, c'était aussi des crashs, mais des crashs moins chers et au final moins violents. Mmh. Et même des films qui étaient... Des films presque anecdotiques, j'ai envie de dire, comme Souris City ou B-Movie qui n'avaient pas...
Souris City. Je me souvenais plus que ce film existait.
Mais avec la voix de Kate Winslet, ce truc. Le souvenir de souris Kate Winslet qui me vient en tête, je ne sais pas pourquoi. Là.
J'ai le souvenir d'un jeu PS2 bien pourri, surtout, mais ok. Mais, ouais,
Souris
très bien.
City. Mais bon, voilà, c'est des films
ils
qui
ont été loin pour le titre. À dire.
C'est des films qui n'ont pas vocation à devenir des franchises, il n'y aura jamais de suite. Voilà, c'était comme ça des petits one-shots et au final des échecs assez discrets qui ne mettent pas vraiment dans l'embarras. Là... on est quand même au niveau où c'est le plus gros échec de DreamWorks. Si tu fais vraiment comparaison stricto sensus avec le box-office, le plus gros flop, c'est Les Trolls 2, mais il est sorti pendant la pandémie et avec une sortie hybride, salle et streaming. Donc, c'est difficilement comparable. Mais là, on peut dire que pour l'instant, c'est le plus gros flop de DreamWorks ever. Alors que, comme je le disais avant, il y avait eu Le Chapoté 2 juste avant, qui avait été une super belle surprise, qui avait super bien fonctionné avec le bouche à oreille. Il y avait vraiment...
C'était justifié.
Voilà, il y avait vraiment... J'ai l'impression qu'il y avait un attachement et un amour qui s'est recréé pour Le Chapoté avec ce film, vraiment. Et de toute façon, même toi et moi, Antoine, on est sortis
de la projection. On a pleuré, on était trop contents.
On est sortis, j'avoue. On avait les yeux rouges et on était... En plus, c'était un matin où on y était allés.
En traînant un peu les pieds en se disant ça va être pourri. En fait, méga belle surprise.
On est ressortis, on est revenus, on était tout joués à cet endroit. Vraiment, il y avait quelque chose qui s'est créé, un effet un petit peu communautaire autour de ce film que je trouvais grave rafraîchissant.
Après, c'est vrai que du coup, Le Chapoté repose sur une marque,
voilà.
Shrek, alors
donc,
que Kraken, ce titre de merde, là...
Au final, il avait fait 482 millions au box-office mondial, mes films de franchise. Du coup, pour un objet de comparaison un peu plus sensé, il y avait les Bad Guys encore avant. Et là, c'était quand même 250 millions au box-office mondial. Je répète que Ruby, c'est 41 millions.
Mais c'est sûr que si tu demandes aux gens autour de toi, je pense que personne sait que ce film existe et personne n'arrive à l'identifier. Non.
Même sur le site, on l'avait vu avec la critique. Les chiffres, ils sont... Mais... Je crois qu'on est en dessous des 5000 vues pour un aussi gros film d'animation.
Je crois qu'à chaque fois que j'ai fait
horrible.
Un tweet sur tes articles, parce qu'il y a que toi qui as écrit là-dessus, à chaque fois quelqu'un dit « Ce film existe ? Ce film est sorti ?» Vraiment, il est passé complètement inaperçu, particulièrement
j'aurais
franc,
pu
j'imagine.
Occuper mon enfant pendant un après-midi, vous pouvez dire, c'est ça. J'ai pas vu. Et dans le même domaine des films, pourtant, a priori massifs, qui sont totalement passés inaperçus, alors celui-là, c'est vraiment... Pire encore, c'est Le Manoir Hanté de Disney. Alors celui-là, pareil, en plus, je suis le seul à me l'être tapé. Hein, et quelle catastrophe. Alors qu'en plus, c'est le mec qui avait fait Dear White People qui est derrière. Donc ça pouvait... Voilà, ça aurait pu être plutôt sympa. Ça ne l'est pas, déjà. Mais surtout, c'est incompréhensible puisque du coup, donc énième adaptation d'une attraction de Disney. Et Disney devrait retenir la leçon que depuis Pirates des Caraïbes, ça ne marche plus. Donc ils essayent toujours, encore, mais ça ne marche jamais. Et Jungle Cruise l'avait déjà prouvé, mais en étant quand même pas un méga bide non plus parce que t'avais Dwayne Johnson et Emily Blunt pour supporter le truc. Mais alors là, déjà, Le Manoir Hanté, ça a quand même coûté 150 patates. Ce qui est déjà incompréhensible puisque le film se passe quasi intégralement dans le manoir. Donc
oui, t'as pas Dwayne Johnson et Emily Blunt, quoi,
ouais,
les
voilà,
acteurs.
C'est incompréhensible.
Talentueux ou pas, c'est juste ils sont beaucoup moins établis et demandent pas 20 millions, j'imagine, pour jouer dedans. Quoi.
Et donc, bon, là, le film est pas encore à la fin de son exploitation, mais il a rapporté 85 millions de dollars dans le monde, dont 58 aux US, et son démarrage était de 24 millions aux US au moment de sa sortie, ce qui était absolument catastrophique. Bon, c'était attendu, personne n'espérait plus que ça, et d'ailleurs, bon, Disney a plus ou moins assumé que le film était sacrifié, puisque bah, même tout le monde se posait la question de pourquoi un film d'horreur familiale, un film de fantôme sortait en période d'été, alors que c'est a priori le film parfait d'Halloween. Les rumeurs voudraient que Disney les sacrifie pour en fait pouvoir le sortir en streaming au moment d'Halloween sur Disney+, du moins aux États-Unis. Voilà, c'était la stratégie était voilà, d'y aller totalement à la perte sur celui-là, ce qui est
c'est
assez
sûr que quand tu
assez
réfléchis, je sais pas combien a coûté Hocus Pocus 2 que tu avais regardé, Déborah, mais...
Oh mon Dieu.
Non mais du coup, peu importe, c'est juste que c'est intéressant.
Non mais
pourquoi...
tu m'as rappelé le souvenir d'Hocus Pocus 2.
Pourquoi Le Manoir Hanté sort au Cinoche alors que Hocus Pocus 2, enfin Le Manoir Hanté aurait eu du matos à sortir direct en SVOD sur Disney+.
Bah s'ils avaient investi moins dedans, mais je pense qu'ils voulaient quand même un truc un peu prestigieux et le film, je le trouve pas génial. Après tu vois, c'est pas honteux non plus, le film a un peu de gueule et je trouve le casting intéressant. Mais
il y a qui déjà Je sais qu'il y a Jared Leto, mais il y a qui aussi dedans?
Il y a Rosario Dawson et cet acteur super dont j'oublie toujours le nom qui est. Oui voilà, exactement.
Et Winona Ryder aussi non?
Qui a un tout petit caméo de merde, oui. Mais Lucky Stanfield, moi je trouve qu'il porte vraiment le film sur ses épaules et ça prouve à chaque fois que c'est un super acteur, mais c'est juste que bah, ça serait cool s'il avait des meilleurs projets, ouais. comme Sorry to Bother You, qui pour le coup était vachement bien. Mm-hmm. Mais le film a un casting intéressant, une dynamique qui n'est pas nulle, mais le film en lui-même est tellement insipide et insignifiant que.
Voilà. Une longue série des films où tu te demandes pourquoi ils mettent autant de thunes et à quoi ils croient.
Parce que je pense qu'ils veulent recréer la magie de Pirates des Caraïbes et à chaque fois. En plus, ils le vendent toujours comme ça, hein, les producteurs Pirates des Caraïbes, machin, mais ça ne marche jamais.
Dans
parce
200
que
ans.
C'était un miracle.
Les producteurs de Pirates des Caraïbes.
Oui, mais tu vois, c'est vraiment ça. Je pense qu'ils essaient de recréer cette magie-là. Et
je crois que la version Eddie Murphy en 2000. Des années 2000 a sûrement suffisamment marché pour qu'ils disent vas-y on continue.
Ouais, c'est ça, je pense qu'il y a aussi un petit culte générationnel autour de ce film là. Moi j'ai aucune attache pour, mais je sais que certains oui, donc je pense qu'ils ont un peu espéré jouer là-dessus, mais c'était totalement
et
insuffisant.
Non.
Et non. Et dans l'autre domaine aussi, il y a quand même, bon, plus petit film, mais bide fantastique aussi, c'est Le Dernier Voyage de Déméter. Donc nouvelle énième version de Dracula, mais cette fois réduite au fameux bateau, la séquence sur le bateau, qui lui a réalisé, alors lui il est au tout début de son exploitation, mais il a fait 6,5 millions au démarrage américain, alors que le film a coûté 40 millions, ce qui est, je pense, comparable. Mais là, en fait, tu vois, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'en soi, c'est spectaculaire comme beat, tout le monde l'a commenté comme tel, mais en même temps, tous les ans, t'as au moins un film qui fait un beat comme ça aussi spectaculaire. L'année dernière, à ma grande tristesse, c'était le 3 000 ans à t'attendre, absolument époustouflant de George Miller, qui, pour un prix quasi similaire, et je vois votre tête, je te vois, Déborah, mais si, c'est un film absolument fantastique, qui avait coûté vaguement 50 millions et qui en avait rapporté 3 ou 4, je crois, à son démarrage américain. Donc, c'était, voilà, le bide était absolument fantastique.
Mais tu vois, ce que je trouve fou, c'est que 3 millions à t'attendre, peu importe ce qu'on en pense, déjà, bon, c'est un film qui est quand même intéressant, mais si tu l'aimes pas, et surtout, c'est un film compliqué à vendre. Le voyage du, le dernier voyage du Déméter, c'est pas compliqué à vendre. Alors, le film est pas bien, hein, mais enfin, en tout cas, Judith et moi, on le trouve bof, et encore, Judith est un peu plus gentille que moi, mais c'est un film d'horreur. Tu le vends comme un film d'horreur avec un Dracula sur un bateau. Vraiment, t'as de quoi appeler tout un large public.
Je l'ai pas vu, mais rien que tu dises Dracula sur un bateau, perso, ça me
bah ouais,
dit.
Non, mais tu. L'affiche, c'est le Déméter, le bateau dans une tempête au clair de lune avec la lumière bleue des films d'horreur, et c'est genre un huis clos. En haute mer, sans Steven Seagal et avec Dracula. Donc vraiment, tu vois, c'est
le meilleur des mondes.
Non, mais c'est trop bizarre qu'ils se soient foirés sur la promotion de ce truc-là, ou en tout cas, ils aient pas réussi à attirer le public qui normalement serait allé voir ça pour se faire avoir, parce que c'est pas bien. Mais peu importe.
Et avant de passer sur d'autres films qui sont tout aussi intéressants au niveau de leur succès moindre, il y a quand même un truc sur lequel je voulais qu'on revienne, parce que il y a un comparatif qui est quand même intéressant à faire sur Flash, Indiana Jones, et c'est un truc en fait dont on peut peu parler parce que il y a peu de chiffres concrets là-dessus, mais c'est l'importance des partenaires financier quand on parle d'un film au box-office et du coup de ses revenus, c'est-à-dire ça joue sur le succès ou pas d'un film aussi. Et là où je pense que Flash peut vraiment être considéré comme l'un des plus gros flops, non seulement de l'année, mais peut-être de l'histoire, même si a priori Indiana Jones a coûté encore plus cher, c'est que Flash, au vu de sa production très chaotique, a eu un problème, c'est qu'en fait, les partenaires financiers, c'est quand une marque s'associe à ton film pour le mettre en avant, tandis qu'il met en avant son produit, donc a priori, c'est eux qui investissent de l'argent pour se mettre en lien avec le film, donc ça permet au film de récolter de la thune. Ça marche aussi avec les placements de produits. En fait, sur The Flash, personne, enfin, ou très peu de marques ont voulu s'associer au film, sentant la catastrophe et sentant surtout
les films radioactifs.
Voilà,
non, pas avec
vois,
un bâton.
Truc, voilà. Là où Indiana Jones, au contraire, sans doute par l'effet de marque et par le
prestige,
fait que pendant longtemps, voilà, le prestige de la marque a fait aussi qu'avant même que le flop arrive, beaucoup de marques se sont dit vas-y, on investit à fond dedans en fait, et que ce soit des marques de bagnoles, tu vois, plein de trucs qui ont quand
cette
même
foutu pub de
cette
bagnole,
pub,
c'est quoi,
ouais.
C'est une Land Rover, un 4x4
je sais plus, un 4x4 de merde, mais avec la musique de John Williams qui
tellement
est
tellement long, quoi, pour vendre une bagnole.
Puis un viol de la musique de John Williams, ça te fait un peu du mal sur ça. Mais du coup, a priori, Indiana Jones, même si on peut pas totalement estimer à quel point ça l'aide vraiment au final, a priori le flop est quand même un peu moindre, parce que au moins, tu vois, le film peut se rentabiliser un peu là-dessus, là où The Flash a vraiment rien pour lui, le pauvre.
Alors l'autre manière de lire ça, c'est que le flop d'Indiana Jones est pire, puisqu'il a eu plein de publicités avec plein de marques à la con de tous les côtés, alors que The Flash ne l'a pas eu et s'est planté.
Et oui. Mais en même temps, c'est pas le seul, hein, parce que la Black Skittles de Shazam 2, là, qui débarque en plein milieu sans prévenir, là, c'est un truc...
C'était vraiment bizarre, c'était vraiment un moment genre un peu d'hallucination collective, en mode, attends, il se passe un truc, là, qu'est-ce qui se passe? Et on sort de la salle et on se dit, mais attends, mais ce moment, il était vraiment... C'était réalisé comme une pub. Il y avait tous les marqueurs visuels de la pub, le tempo, le Taste the Rainbow qui est balancé comme ça. Et tu te dis, mais attends, c'est super bizarre, parce qu'il n'y a même pas la démarche de faire quelque chose de vraiment très parodieux, en mode, regardez, on se réapproprie les codes de la pub parce que la séquence est trop courte et qu'elle va nulle part. Et au final, après, tu te rends compte, en allant faire un tour sur Twitter, que oui, en fait, Skittles a repris l'extrait en mettant tout un habillage pub autour, et qu'en fait, c'était une pub pour Skittles qui est implémentée dans le scénario. Enfin, c'était
c'est un peu génial. Hein. C'est comme le Pepsi ou le Coca, d'ailleurs, pour dire à quel point comment c'est réussi, j'hésite entre les deux, dans World War Z Pepsi. Avec c'est Pepsi.
Je peux te dire que c'est Pepsi Pete. Parce que ça pour le coup c'est gravé dans ma mémoire à tout
jamais. À la rigueur, donc ce truc là c'est il prend juste une canette, il l'ouvre, voilà, bon, parce que
elle est en train de réécrire l'histoire, genre c'est OK quoi, là, mais c'est non, mais... tellement honteux quoi.
C'est le moment du climax du film où il s'est ingéré un putain de
c'est la fin
de
poison, oui, mais jamais, pourquoi pas boire un Pepsi quoi.
Mais parce qu'il y a ce truc de voilà, maintenant il est chill et puis attends, c'est l'apocalypse,
il est bien coiffé.
Tu peux savourer un Pepsi avant peut-être de mourir parce que ce sera le dernier Pepsi de ta vie, je sais pas, genre tu peux essayer de trouver un sens,
c'est là vraiment le recycler dans le marketing.
Et puis vraiment c'est à la rigueur, c'est vraiment 10 secondes le truc Skittles. C'est long, c'est gênant, ça ne va nulle part, c'est pas juste une petite pastille de merde que tu peux jarter.
On en est
quoi,
au stade
c'est...
où on est en train d'excuser World War Z et Pepsi quand même. Hein.
Ah oui, non, vraiment, c'était beaucoup trop l'hallucination ce truc Skittles et le slogan qui est balancé. Je veux dire, t'as pas Brad Pitt qui te balance le slogan de Pepsi, tu vois.
Alors qu'en plus, c'est important qu'on revienne là-dessus parce que les produits dérivés et tout ce qui existe autour d'une marque, surtout dans le cadre des blockbusters qui reposent souvent sur des franchises transmédiatiques, c'est devenu de plus en plus important. Et même là, pareil, on n'a pas toujours les chiffres, mais du coup, le box-office d'un film et son potentiel flop, faut toujours le mettre en perspective de ce que ça rapporte à la marque derrière. Et pour le coup, il y a quand même des exemples assez passionnants cette année. Alors, bien évidemment, il y a le cas Barbie. Parce que Barbie, bon, bah, Mattel misait beaucoup sur ce film-là. Le succès, on y reviendra après, mais absolument flamboyant.
Ils ont eu raison.
Ils ont eu raison, parce que là, c'est largement au-dessus de leurs espérances. Mais du coup, il y a un article super intéressant de Hollywood Reporter qui est sorti il n'y a pas longtemps pour justement revenir sur ça et sur à quel point, du coup, forcément, les ventes de Barbie ont explosé ces derniers temps, et notamment sur les modèles vintage qui se vendent très très cher parfois. Et notamment, il y a un truc très amusant quand même sur lequel les gens sont revenus. Les revendeurs expliquent que ça fait des années, où c'est d'ailleurs une blague du film, le modèle Alan, donc le personnage qui est joué par Michael Cera, donc qui est l'anti-Ken dans le...
L'anti-Ken.
dans Barbie, se vend jamais. En fait, c'est vraiment un modèle qui n'intéresse absolument personne, y compris chez les collectionneurs.
J'ai pas qu'il existait, moi. J'ai appris la licence en lisant le Hollywood Reporter.
Voilà. Et en fait, bah, depuis le succès du film et notamment le succès de ce personnage-là dans le film, et bah, Alan se vend extrêmement cher, mais c'est genre c'est, les demandes de recherche ont explosé de 1300%, un truc comme
ce
ça.
Ce monde
enfin,
me fatigue, je vous le dis. Vraiment.
Non, mais parce que l'article disait aussi un truc intéressant par rapport à Alan et tout ça, c'est que bon, bah, déjà le marché Barbie, à moins de s'adresser vraiment aux collectionneurs, c'est un marché qui s'adresse aux enfants, et qu'au final, les ventes qui ont explosé, c'était du côté du public adulte. Mmh. C'est les adultes. Oh, tu fais une tête dégoûtée,
ah, j'en sais. C'est vraiment, j'ai envie de dire, le monde me fatigue. Mais je viens déjà de le dire. Donc...
J'avoue, j'ai un peu eu envie d'acheter.
Non, mais je vois tous les gens partout qui portent les t-shirts Barbie et tout. On reviendra sur le fait que t'as envie d'acheter. Hein.
Tu sais, c'est la voiture, Barbie,
c'est
décapotable.
Le modèle de ce film qui a réussi à vraiment créer un buzz absolument incroyable qui touche tout un tas de couches sociales qui ont la thune de s'acheter des merdes avec Ken dessus et de parader en soirée avec. Je trouve ça fascinant, quoi. C'est vraiment une réussite hallucinante et terrifiante.
Alors moi, il y a d'autres jouets pour le coup que, en plus, moi j'achète.
Je me demande
vraiment
de quoi je vais parler. Tiens.
Tu me demandes de quoi je vais parler. C'est évidemment les Transformers. Donc là avec Rise of the Beast qui techniquement lui aussi un flop, et pourtant c'est là où ça s'interroge, c'est que le film est le film qui a le moins rapporté d'argent de la franchise, mais Hasbro estime qu'a priori les ventes de Transformers ont explosé de 85% depuis la sortie du film en juin dernier, ce qui a priori est quand même plutôt pas mal, surtout que Rise of the Beast est un cas un peu particulier où comme ils mettent en scène des personnages qu'ils n'avaient pas mis en scène depuis très longtemps dans un média Transformers, donc notamment les Maximals, donc le gorille et les animaux.
Qu'est-ce qu'il raconte là, il parle de quoi? C'est quoi tous les
donc,
mots?
Moi j'ai eu très envie d'acheter mon Optimus Prime mais qui est déjà en rupture de stock, donc je suis déjà dégoûté, mais je peux acheter le gorille, et surtout le gorille bah, c'est assez nouveau et ça faisait très longtemps qu'il ne l'avait pas mis en avant dans la marque, donc pour eux, c'est plein de sous-sous à se faire sur des nouveaux modèles de jouets qui n'étaient pas
donc,
en
donc si je résume, on t'offre un gorille Transformers, voilà. Antoine, et toi, ouais, on te trouve un Ken ou un Alan et vous êtes content, c'est ça?
Alors non, moi je veux une la Barbie. Voiture décapotable rose.
D'accord, très bien.
De Barbie.
En vrai, moi je veux bien une maison de rêve Barbie pour mettre mes Transformers dedans. C'est un truc qui me parle pas mal.
Alors moi, tout ça me rappelle un truc très amusant mais triste aussi. En 2016, quand le film fabuleux de Assassin's Creed est sorti avec Michael Fassbender, à l'époque, il y a eu tout un truc d'une sincérité absolument désarmante de Alan Corr, qui était le chef de la division européenne d'Ubisoft à l'époque, qui disait en fait on s'en fout, on va pas
à
gagner.
Il a été viré entre.
Je sais pas s'il y a encore, je n'ai pas vérifié donc je préfère préciser ça. Mais il disait on va pas gagner d'argent avec ce film, c'est plus une arme marketing qu'autre chose. puisque ça va bénéficier à l'image de la marque. Évidemment, on va quand même gagner un peu d'argent avec lui, mais c'est pas le but. L'objectif, c'est de faire connaître Assassin's Creed à un plus large public. Donc en fait, c'est vraiment cette idée qu'en fait, le film est un levier, que ce soit peut-être de balancer 300 millions pour Indiana Jones pour la plateforme SVOD qui met en avant Indiana Jones, ou pour vendre les gorilles à des gens comme toi, Antoine, ou pour vendre des voitures à des gens
les
comme
gorilles
toi,
robots,
Déborah.
Les gorilles robots, il faut, oui, faut quand même... Si voilà.
Après, c'est pas obligatoirement que des jouets. Je sais pas, par exemple, le Super Mario Bros, à quel point il a influencé derrière les ventes de Mario.
C'est clair.
On est sur un jeu vidéo. L'autre exemple aussi qui était donné dans The Hollywood Reporter, c'était celui de Spider-Man 2099, donc un des variants.
Donc le Miguel O'Hara, l'antagoniste entre guillemets de Cross the Spider-Verse.
Et qui était surtout un personnage que le grand public ne connaissait quasiment pas, voire pas du tout. Enfin, c'était un no-name, ce Spider-Man. Et justement, la sortie de Cross the Spider-Verse a permis de booster les ventes et le public, ça y est, le grand public s'intéresse à un personnage qu'il ne connaissait pas avant. Bon, ça ne fera pas ça avec Blue Beetle, par exemple. Mais...
Alors que les ventes des comics de Flash se sont écroulées, ou en tout cas ont été stabilisées à un point de néant par rapport à ce qu'ils attendaient. Et que ceux de Batman, suite à The Flash, par contre, a juste remis en avant le côté célébration, popularité, nostalgie de Batman.
Bah, ce que disait Hollywood Reporter, que je trouve assez juste, c'est qu'en plus The Flash te donne la sensation que ça sait pas où ça va, en fait, ça motive pas les gens à se tourner vers des produits dérivés après, en fait. Là où Across the Spider-Verse, c'est super malin là-dessus et te donne tellement la sensation d'un nouveau champ des possibles que c'est ça aussi qui attire le public, au-delà de la qualité du film, tu vois. Et d'ailleurs, ça s'est joué aussi au-delà de Miguel O'Hara, Miles Morales. Alors, Hollywood Reporter le survint un petit peu, mais il dit qu'en fait, c'est clairement le nouveau personnage du millénaire en comics qui va être le plus important et le plus rentable dans les années à venir. C'est-à-dire que c'est, non seulement bah, il arrive quand même à prendre sa place face à Peter Parker, qui est implémenté depuis maintenant des décennies, et pas que en comics, mais aussi au cinéma. Et là, en fait, si tu prends avant la sortie du premier Spider-Verse, donc New Generation en français, la première apparition de Miles Morales en comics, tu pouvais l'acheter pour $50 facile. Maintenant, ça se vend à $1,600, voire 2,000 si tu veux, voilà une version. Tu as une belle version neuve.
Mais c'est ça que je trouve assez dingue quand on parle de ça, c'est que je me dis que notre manière sur écran large d'analyser le box-office, en fait, est de plus en plus vouée à être juste un morceau de l'analyse, parce qu'en fait le film devient juste un morceau d'un écosystème à l'image des univers partagés où un personnage a une incidence sur l'histoire d'après. C'est qu'en fait quand on parle d'un film et qu'on se dit oh bah du coup c'est un énorme bide, en fait c'est la diversion parfaite, parce qu'en réalité c'est juste un morceau d'un business plan énorme. Et peut-être que parfois le choix de certains méchants ou personnages qui sont maltraités, sous-traités ou dont on se fout dans le film, c'est juste un levier à l'intérieur d'un autre levier, à l'intérieur d'un autre levier, d'un truc qui nous dépasse. Et il y a des gens qui se font des couilles en or constamment sur des trucs dont on n'a même pas conscience.
Mais tu vois, ça pose même la question, on parlait du flop de Donjons et Dragons, mais finalement c'est un cas intéressant, parce que Donjons et Dragons, a priori tout le monde s'est dit, mais pourquoi ils veulent relancer Donjons et Dragons, les précédents films étaient nuls, la marque reste un truc un peu nerd, mais en même temps tout le monde te dirait que bah oui, mais il y a eu Stranger Things, il y a eu plein de choses qui ont remis Donjons et Dragons en avant, il y avait potentiellement un attrait à ramener cette marque là et surtout, est-ce qu'au final, même si le film a pas méga cartonné, et en partie parce qu'il a coûté trop cher par rapport à ce qu'il a rapporté, est-ce que l'attrait que peut gagner la marque grâce à ça, en faisant en plus un truc assez cool, assez frais, comme les critiques l'ont pas mal mis en avant, est-ce que ça n'aide pas la popularité de la marque Donjons et Dragons, qui est aussi un truc d'Hasbro? Et là, tu vois, on le voit récemment, le succès d'ailleurs de Baldur's Gate 3 en jeu vidéo, qui est tiré directement du monde de Donjons et Dragons et qui reprend toutes ses mécaniques. C'est un jeu, avant Baldur's Gate, ça a toujours été un truc de niche qui parlait vraiment à une certaine tranche du public gamer. Et là, ça devient un des plus gros cartons de l'été en jeu vidéo. Je me demande, tu vois, enfin, sans vouloir tirer des conclusions trop hâtives, bah, à quel point finalement on peut pas se dire quand même que la connexion que les gens sont faites dans l'année à se dire ah, il y a le film Donjons et Dragons, même si je l'ai pas vu, je sais que ça existe. Ah bah tiens, il y a Baldur's Gate, ok.
C'est sûr, on se dit tout le temps, on répète tout le temps que la carrière cinéma c'est une partie de la carrière d'un film et qu'après, même si le marché se casse la gueule, il y a la vidéo, le Blu-ray, DVD, la SVOD, la VOD. Et en fait, peut-être que ouais, il y a un truc comme Donjons et Dragons, on se dit ils ont claqué quand même 150 millions. Pour un box-office au final de même pas 210 millions, donc clairement c'est pas un succès. Quand tu compares au film des années 2000, l'énorme Nanar là, il a coûté 45 millions et fait 34 au box-office, donc il n'y avait aucune raison de claquer autant de thunes, sauf peut-être à se dire en fait c'est juste un énorme coup promotionnel pour rendre cool ou transformer en cool Donjons et Dragons, et peu importe si le film se plante, en fait c'est juste une énorme opération marketing pour que la marque soit remise sur le devant de la scène. Et peut-être que J'imagine qu'ils ont très bien conscience de la force du téléchargement illégal, de la force des réseaux sociaux, et même s'ils se disent que ça n'est pas un truc qui va apporter de l'argent, c'est un truc qui, du coup, tu remets des pièces dans la machine et il y a un moment ou un autre, en fait, ça va revenir vers toi, les gens vont investir, vont se réintéresser à un truc qui était un peu abandonné. Donc peut-être que ouais, c'est dépensons 200 millions pour un film, on sait qu'on va sûrement perdre de l'argent, mais sur le moyen ou long terme, ça va nous revenir, parce que du coup, c'est juste une étape marketing de repositionner la marque Donjons & Dragons. Et de ce côté-là, c'est sûr que quand on voit en plus, dès qu'on reparle de Donjons & Dragons, globalement, les gens trouvent ça bien.
Oui, c'est ça.
Le film était rattrapé, il est considéré comme une bonne surprise. C'est quasiment voué à devenir un petit truc culte dans le sens où il n'a pas marché, les gens sont passés à côté, parce que plein de gens ne savent même pas que ce film existait et ne savent peut-être même toujours pas qu'il existe. Il a été rattrapé après, il arrive en téléchargement, ils ont vu un buzz de gens côté public en parler en disant que c'était cool. En fait, c'est le petit objet de niche redécouvert avec la plus-value de « Oh, les gens n'ont pas aimé, et moi j'ai compris que c'était bien. » Et c'est potentiellement, c'est sûr que ça va avoir un impact positif, ce qui est quand même assez inouï. Tu te dis, en fait, pour analyser un film comme ça, on a besoin de recul et de données qui ne sont pas données, puisqu'en fait, ça n'est même plus le sujet. Le réel problème, c'est plus le cinéma. C'est un truc qui nous échappe totalement parce que c'est cross-média.
C'est ça. Et bah, en fait, ça me fait surtout me rendre compte à quel point le sujet est encore plus vaste que j'avais prévu. Et finalement, on a eu le temps de parler en détail de The Flash, Shazam 2 ou encore d'Indiana Jones 5, mais il y a encore plein de cas passionnants à étudier sur 2023, alors que ce soit les flops de Fast and Furious 10, Mission Impossible 7, Transformers, ou justement le succès dément de Barbie et Oppenheimer que j'évoquais plus tôt. Ce que je vous propose, c'est qu'on arrête ici cette réu et qu'on la reprenne peut-être la semaine prochaine pour clore le débat.
Ok, très bien.
En tout cas, ça confirme qu'il y avait vraiment de la matière et je me dis franchement que c'est juste bête de pas en faire un podcast. Mais pour ça, il faudrait que Écran Large se décide à sauter le pas et que les auditeurs nous soutiennent en s'abonnant, en commentant sur leur plateforme de prédilection et en mettant 5 étoiles. Et on pourra les en remercier parce que c'est ça le plus important.
Si vous aimez notre podcast et que vous voulez qu'on continue, vous pouvez vous abonner au site Écran Large. Alors pourquoi vous abonner à Écran Large ? Déjà, ça vous donnera accès à des articles exclusifs chaque semaine. Et surtout, en vous abonnant, vous soutenez Écran Large et vous permettez à notre média libre et indépendant de continuer à vivre. Les détails sont dans la description du podcast. Merci et à bientôt.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.